Jean-Roger Billon, il est 11h à Lomé au Togo, c'est le temps universel. Bienvenue au Togo donc. Le bras de fer gouvernement-opposition se poursuit, des marches très suivies par des Togolais exigeant le retour à la constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à deux sont organisées quasi hebdomadairement. Farida Bemba Naburema, directrice exécutive de la Ligue civique togolaise, dénonce le tripatouillage de la constitution par le régime de Faure Gnassingbé.
Nous avons un gouvernement qui a toujours créé une constitution sur mesure. Donc quand ça les arrange, ils retirent des clauses de la constitution. Quand ça ne les arrange pas, ils en rajoutent d'autres. Et les Togolais sont fatigués de cela. Nous avions voté à plus de 99% en 1992 durant un référendum pour une constitution qui limite clairement les mandats et qui dit qu'en aucun cas, nul ne peut servir plus de deux mandats. Donc si nous avons en tant que peuple, durant une conférence nationale souveraine, choisit une constitution, le fait qu'un régime militaire vienne changer cette constitution et revienne nous imposer sa nouvelle version n'est pas une chose que nous les Togolais sommes prêts à accepter.
Farida Bamba Naburema de la Ligue civique togolaise. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema a affirmé mardi qu'une vingtaine de militants de l'opposition étaient en prison, tandis que le principal parti d'opposition, Citoyens pour l'Innovation, évoque lui plus de 200 ses militants emprisonnés. Le président Obiang n'a pas détaillé les raisons de ces emprisonnements, ni si les détenus étaient sous le coup d'une procédure judiciaire. Depuis les élections générales du 12 novembre, où le pouvoir a obtenu 99 sièges sur 100 au Parlement, le parti Citoyen pour l'Innovation, qui dispose d'un siège unique, estime que plus de 200 de ses militants sont détenus à travers le pays après des arrestations massives dans les capitales politiques Malabo et économique Bata. En Centrafrique, consternation à Bangui après le non-lieu prononcé par la justice française dans l'affaire de la dizaine de soldats français de l'opération Sangaris accusés d'avoir violé des enfants dans le site de déplacés de l'aéroport de Bangui. Ce non-lieu a surpris plus d'un dans la capitale centrafricaine, Freeman Sipila.
À l'annonce de cette nouvelle, la consternation a vite gagné la capitale centrafricaine. Dans les rues, cette décision est mal accueillie, même si certains gardent encore un brin d'espoir, comme ils le confient au micro de VOA Afrique.
Comment est-ce qu'il n'y avait pas de preuves? Il y a des preuves. S'il n'y avait pas de preuves, les gens ne pouvaient pas dire de n'importe quoi.
Je crois que des preuves ne manquent pas. Il va falloir que la justice fasse son travail et que le gouvernement se mette pour que la situation soit... Je pense que ce n'est pas encore tard. C'est une justice, on peut à un moment donné demander à ce qu'on revienne sur cette décision pour que nos parents violés puissent être revus dans l'ordre.
Ces victimes ont droit à la réparation, mais pour le moment, s'ils ne sont pas reconnus comme coupables, donc quitte à ces organisations internationales de voir comment on peut donner réparation à ces victimes, puisque c'est aussi important.
Les preuves sont là, et nous pouvons vérifier auprès de ceux qui étaient à l'aéroport pour dire que vraiment, ils ont violé, au vu au sud de tout le monde. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé, non. En tout cas, ce n'est pas la justice.
Selon la justice française, les incohérences matérielles et la variation des témoignages n'ont pas permis d'établir des faits circonstanciés à l'encontre des militaires suspectés. Argument qui fait réagir Francis Mungumbi, président de la jeunesse centrafricaine.
Je me questionne, comme tous centrafricains, à quelle fin les victimes ou les supposées, les présumées victimes ont-ils annoncé au monde entier qu'ils ont subi de tels méfaits? À quelle fin? Donc je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Aussi petite soit cette fumée, nous voulons voir d'où elle vient. Ne fût-ce que ça soit un acte de violence, tentative, que sais-je encore, mais nous voulons savoir. Et moi je dis encore que la précipitation du verdict nous laisse poser des questions.
Pour le moment, les organisations de défense des droits de l'homme et celles des victimes de la crise se réservent encore de commenter cette décision. Cependant, Maître Denis Modumadé, avocat au barreau de Centrafrique, s'est dit surpris. Il s'interroge sur le suivi du dossier par les autorités centrafricaines.
Je ne sais pas comment le dossier a été suivi, mais j'ai quand même été surpris de la décision de non-lieu par rapport aux éléments de l'opération Sangaris en Centrafrique qui avait été mise en cause dans cette affaire. Je suis quand même un peu désolé par rapport à cela et j'ai cru entendre que les ONG qui étaient en charge de ce dossier ont fait appel de la décision. C'est une très bonne chose, ça voudrait dire que tout n'est pas encore fini et qu'on pourrait rattraper cela.
Une dizaine de soldats de l'opération française Sangaris, déployés fin 2013 en Centrafrique, étaient accusés de viol sur mineurs. L'affaire concernait des faits qui se seraient déroulés en entre décembre 2013 et juin 2014, six enfants âgés de 9 à 13 ans ont dénoncé des abus sexuels commis par ces militaires dans le camp de déplacés de l'aéroport Bangui-Poco en échange de nourriture ou de l'eau. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Tchad, le prix de l'essence, du gaz butane, du gasoil et autres a flambé avec des répercussions sur le coût de la vie déjà insupportable dans le pays. Cette hausse qui a fait suite à la décision du gouvernement de ne plus baisser les salaires suscite indignation et consternation au Tchad. Michel Barka, président de l'Union des syndicats du Tchad, est en colère contre le gouvernement.
Cette fois-ci, unanimement, on se rend compte que les gens ont été touchés. La population est en désaccord total avec toutes les mesures qui sont prises et ça se lit dans tous les visages, dans les rues, dans les journaux et partout. Les gens expriment leur ras-le-bol du comportement du gouvernement. Nous n'avons pas accepté qu'on nous applique des augmentations des impôts qui vont encore considérablement réduire notre revenu. Nous préparons à dire non au gouvernement.
Michel Barka, syndicaliste tchadien. Au Cameroun, l'Institut ophtalmologique de Bac soigne les maladies de la vue de nombreux patients du pays, mais aussi de la sous-région. Appelé l'hôpital des yeux de Bac, l'Institut est situé à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé, la capitale. Correspondance de Emmanuel Jules Intap.
Depuis le 29 mars 2017, date des premiers soins dans cet hôpital, les malades affluent de tout horizon. L'hôpital doit surtout sa réputation aux opérations réussies de la cataracte, l'une des principales causes de la cécité au Cameroun. Dr Henry Koumbé, médecin chef de l'hôpital des yeux d'Obac.
Nous avons pu effectuer 591 opérations de la cataracte. Cette année-ci, on devrait pouvoir aller au-delà de 2500. Nous voulons aller davantage dans des endroits reculés, pouvoir servir les personnes défavorisées pour qu'elles puissent avoir accès à la chirurgie de la cataracte.
L'hôpital bénéficie aussi du soutien de l'agence publique américaine Overseas Private Investment Corporation. David Boyijen, vice-président de la dite agence, en visite dans les locaux.
Cet institut n'est pas seulement un symbole de la vie pour les malades de la vue. Il est aussi le symbole d'une bonne coopération entre le gouvernement camerounais et américain. Cet institut est la preuve que l'on peut mettre ensemble les fonds privés issus des organisations non gouvernementales et les fonds publics pour la résolution des questions de santé dans le monde.
L'hôpital des yeux d'Obac offre plusieurs services à des coûts sociaux, parmi lesquels l'ophtalmologie générale, la correction de la vue au laser, les soins spécifiques pour les maladies de la vue affectant les enfants, ou encore les conseils en lunetterie et optique. Emmanuel Jolutap, de retour au BAC, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, Lida Kouassi, l'ancien ministre de la Défense de l'ex-président Laurent Gbagbo, a nié mardi les accusations de complot contre l'autorité de l'État devant la cour d'assises d'Abidjan. Il s'est présenté comme un prisonnier politique au deuxième jour de son procès. Lida Kouassi, détenu depuis octobre 2014, comparaît en même temps que trois militaires arrêtés à Abidjan le 8 mars 2012, jour prévu pour la réalisation de leur projet de déstabilisation du régime du président Alassane Ouattara, selon l'accusation. L'audience doit reprendre demain jeudi avec le réquisitoire du parquet et les plaidoiries des avocats. À Washington, il est 6h08. Le médecin de la Maison-Blanche a dressé mardi le tableau d'un Donald Trump en excellente santé. Le médecin a fait savoir qu'il n'y a pas le moindre indice de troubles cognitifs et le chef de l'exécutif devrait le rester jusqu'à la fin de son mandat, voire d'un deuxième s'il est réélu en 2020. Le Bangladesh a recensé plus d'un million de réfugiés rohingyas vivant dans les camps à la frontière avec la Birmanie, a indiqué mercredi le responsable du projet d'enregistrement officiel sur fonds de préparatifs de retour des réfugiés. La Birmanie et le Bangladesh se sont donné cette semaine 2 années pour organiser le retour des 655 000 Rohingyas qui ont quitté la Birmanie depuis fin août, fuyant une campagne militaire qualifiée d'épuration ethnique par les Nations Unies. Et puis, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, est confrontée à sa plus grave crise financière en presque 70 ans d'histoire après l'annonce par l'administration Trump du gel de plus de la moitié de ses versements prévus. Le département d'État américain a annoncé mardi retenir jusqu'à nouvel ordre le versement de 65 millions de dollars à l'UNRWA. Point final à ce journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.